Radio Okapi.
Daniel Tambizoni pour le journal.
Bienvenue à toutes et à tous. Les titres de ce journal, les candidats malheureux à l'élection du gouverneur de la province de l'Équateur contestent l'élection de Bobo Boloko. Ils disent entamer la procédure de recours en annulation de cette élection après des irrégularités relevées. Le comité laïque de coordination, le CLC, une structure de l'Église catholique, appelle à une manifestation, à une marche le 31 décembre prochain. Les organisateurs font savoir que l'objectif de cette marche est de libérer l'avenir du Congo. Le dossier, la revue de presse, les sports sont au menu de la deuxième partie de ce journal. Notre dossier va porter sur la problématique du réchauffement climatique. Voilà pour les titres, messieurs et dames. Encore une fois, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. Les candidats malheureux à l'élection du gouverneur de province de l'Équateur dénoncent les irrégularités qui ont émaillé cette élection, une élection qui a vu triompher largement la liste de Bobo Boloko de la majorité présidentielle. Les trois candidats indépendants, Freddy Ibopanze, Freddy Lakombo et le professeur Mboyo, tous venus de Kinshasa, l'ont exprimé peu après l'élection, au moment où Bobo Boloko, le vainqueur, et ses sympathisants de la majorité fêtaient leur victoire. Ils annoncent avoir déclenché la procédure de recours en annulation de cette élection. Freddy Lakombo, porte-parole des trois candidats malheureux, le dit au micro de Dominique Wolombi Mongapangé.
Monsieur Boloko Bolumbu Bobo, qui a fait 21 voix sur 22. Nous lui disons toutes nos félicitations pour ce score fleuve, ce qui est tout à fait normal au regard de tout ce qui s'est passé. On pouvait que s'attendre à ça. Vous nous avez suivis. Il y a deux jours, nous avons fait un mémo contestant ou dénonçant l'énervement de la loi électorale par rapport à la campagne. Nous l'avons fait, bien sûr, en âme et conscience. Et cela continue à prendre sa route normalement. Pourquoi ? Parce que cette félicitation est une coutume dans les pays civilisés et partout dans le monde. Lorsqu'il y a un gagnant, on doit tout simplement les féliciter. Ceci ne le dédouane pas de toute procédure enclenchée, parce que nous devons comprendre comment les choses se sont passées. Nous croyons, bien entendu, par respect aux institutions, par respect à la coutume démocratique, que tout ira bien selon que la loi le prévoit.
Le gouvernement congolais annonce l'ouverture d'une enquête sur la mort des 14 casques bleus tanzaniens survenus le 7 décembre dernier à Semuliki, dans le territoire de Beni, en province du Nord Kivu. Au cours d'une conférence de presse jeudi à Kinshasa, à son cabinet, le porte-parole du gouvernement, ministre de communication et des médias, a fait savoir que cette enquête se déroule en collaboration avec la MONUSCO. Explication avec Jeff Ngoy.
C'est dans une attaque armée attribuée au présumé rebelle ougandais de l'ADF que les 14 casques bleus tanzaniens ont trouvé la mort. Mais les circonstances de cette attaque ayant conduit à leur disparition ainsi que les responsabilités qui en découlent restent à élucider. Lambert Mende confirme l'ouverture de l'enquête à ce sujet qui pourrait tirer les choses au clair. Selon le ministre, la cour militaire opérationnelle de Beni est d'ores et déjà à pied d'œuvre. Elle s'y emploie avec la mission des Nations Unies en RDC afin d'en établir les responsabilités et sanctionner les coupables. Vous avez constaté avec nous la timidité de condamnation de ces massacres par certains acteurs qui se sont spécialisés ces dernières années dans la récupération politicienne et donné des injonctions pour exiger une enquête internationale indépendante. Mais pour les 14 militaires tanzaniens, aucune demande d'enquête indépendante, indique le ministre.
Toujours au cours de la même conférence de presse, le ministre Lambert Mende a par ailleurs réaffirmé l'engagement du gouvernement de financer les élections en fonction du plan de décaissement convenu avec la CENI et en fonction des recettes réalisées au cours de l'année. La CENI a soumis un plan de financement en vertu duquel 60 millions de dollars sont sollicités pour le mois de janvier et le gouvernement a décidé de mettre à la disposition cette somme qui est prévue pour ce mois, a-t-il dit. Lambert Mende a rappelé que le budget des élections sera séquentiel. Ce sont des recettes qu'on va réaliser au cours de l'année, qu'on affecte au fur et à mesure qu'on les réalise, a-t-il expliqué. Le comité laïque de coordination appelle à une marche le 31 décembre prochain, selon la déclaration de cette structure de l'Église catholique rendue publique hier jeudi. L'objectif de cette marche, qui est par ailleurs la suite de ces actions programmées, est de libérer l'avenir du Congo. Écoutez à ce propos le professeur Thierry Landou, l'un des membres du CLC, au micro de Innocent Olenga.
Ensemble, comme le 16 février 1992, unissons nos efforts et nos forces pour dire non à cet esclavagisme imposé par l'oligarchie du pouvoir, en attendant de le faire de manière plus décisive dans les urnes en 2018. Nous disons trois fois non à la confiscation de la démocratie par une poignée d'individus. Puisque nous voulons des élections crédibles, libérons-nous de la peur, de la résignation et de l'inertie coupable. Levons-nous et marchons dans la capitale, en province ou à l'étranger. Femmes et hommes de foi, croyants en Dieu et chrétiens de toute sensibilité, toute personne éprise de justice et de paix, de toute condition et de toute génération, engagés ou non dans l'activité politique et associative, levons-nous pour libérer l'avenir. Ce dimanche 31 décembre 2017, main dans la main, nous marcherons pour sauver le Congo, dans le respect sacré des personnes et des biens.
Outre le professeur Thierry Landou, le comité laïque de coordination est chapeauté collégialement par le professeur Isidore Ndayuel, le professeur Justin Okana, Madame Léonine Kandolo et Julien Lukengu. L'ASBL, Action Paysanne pour le Développement, APD en abrégé, demande au gouvernement congolais de mener des enquêtes sur tous les massacres qui s'observent dans la chefferie de Buito, de lancer des mandats d'arrêt nationaux contre tous les chefs rebelles opérant dans cette zone et de punir les tireurs de ficelles de conflits interethniques du territoire de Rutshuru. Il s'agit là de quelques-unes des recommandations contenues dans le communiqué de presse de l'APD sur la situation qui prévaut à Buito. Cette organisation parle de graves violations de droits de l'homme. Denise Lukeso.
Cette association, sans but lucratif, dresse un tableau sombre de la situation dans les Buito qu'elle qualifie d'insupportable. L'APD dénonce l'activisme des groupes armés et mouvements des bandits à la base des massacres, incendies des maisons, kidnappings, exactions et violences multiformes. À titre illustratif, les communiqués parlent de 11 personnes tuées sur une période de 28 jours. Salomon Mukandi Rwachandi, coordonnateur de l'association.
Je suis récemment, le 18 décembre 2017, 13 personnes qui ont été prises en otage vers le champ Katunda et parmi ces 13, 4 ont été retrouvées mortes. 9 jusqu'en présent sont prises en otage avec ces Maïmaï Mazembe. On a retrouvé qu'il y a 53% des femmes qui sont devenues veuves par rapport à ces incidents. Il y a 49% de jeunes garçons qui sont devenus des handicapés physiques et invalides. Il y a 23% de jeunes filles qui sont des victimes de violences sexuelles et esclaves sexuels.
Parallèlement, cette association invite aussi la Cour pénale internationale à enquêter sur le massacre perpétré dans cette région. Elle demande aussi aux Nations Unies d'accompagner les activités des dialogues communautaires. Goma, Denise Luque sur Radio Kapi.
Pendant ce temps, le calme est revenu depuis hier jeudi en territoire de Djougou après près de 5 jours de tension entre les membres de communauté Maïlendou dans certaines localités de cette entité située au nord de Bounia. Le gouverneur intérimaire fait savoir que les FARDC et la police ont été déployés dans la zone pour rétablir l'ordre. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes tuées, dont un militaire, près de 200 maisons incendiées et le déplacement des habitants dans plusieurs villages. Isaac Remoyope.
Des sources locales rapportent qu'il n'y a pas eu d'agitation la nuit dernière des manifestants de part et d'autre des deux communautés. Les cas d'incendie n'ont pas été enregistrés dans presque toute la zone. C'est là, contrairement aux 3 premiers jours où environ 5 villages ont été attaqués par des membres des deux ethnies. Des sources humanitaires indiquent qu'environ 200 maisons ont été incendiées dans ces localités, entraînant les déplacements de nombreux habitants qui vivent dans des conditions précaires. Un militaire a été tué et 2 autres dépouillés de leurs armes. Face à l'escalade des violence dans la région, le gouvernement provincial a déployé des FARDC et des éléments de la police pour rétablir l'ordre. Le vice-gouverneur a révélé que les forces de l'ordre ont récupéré les deux armes qui ont été emportées par les manifestants. Des chefs coutumiers et les membres du comité de sécurité du territoire de Djougou ont été également dépêchés dans la région pour sensibiliser la population pour une cohabitation pacifique. Signalons qu'une délégation du gouvernement provincial est attendue en territoire de Djougou pour la résolution pacifique de ces conflits pour ne pas retomber dans les cycles de violence des années 2000. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, finance depuis 2 mois les activités de prise en charge d'une centaine d'enfants non accompagnés se trouvant dans la cité de Poueto. Il s'agit de la prise en charge médicale, du support dans les familles d'accueil ainsi que la réunification familiale. En collaboration avec son partenaire l'ONG APD, l'UNICEF assure aussi les soins médicaux pour 30 enfants blessés suite aux violences entre Twa et Bantou à Poueto Centre, à près de 450 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Le point avec Colin Djouma-Monsonpo.
Selon Ocha, jusque-là, les acteurs de protection de l'enfance ont répertorié 347 enfants répartis dans les villages de Kansabala, Kasama, Kimpeto, Lukonzoloa, Mutabi et Mwenge. Des recherches continuent pour identifier d'autres enfants parmi les personnes déplacées internes qui ont été séparées de leurs familles et communautés à cause des conflits et violences armées. Toujours selon Ocha, le projet prend fin d'ici le mois de décembre 2017, mais les experts pensent que ces chiffres risquent d'augmenter dans les prochains jours car l'insécurité est loin de s'améliorer à Poueto et que nombreux enfants affectés par ces conflits sont sans assistance. Près de 70 000 dollars américains sont encore nécessaires pour continuer la prise en charge des enfants identifiés non accompagnés. D'après toujours ces experts, environ 19 500 autres enfants se trouvant dans le territoire de Poueto ont été également affectés par ces violences et leurs conditions nécessiteraient un accompagnement psychosocial. Mais les fonds manquent. Lubumbashi, Colin Djouma Moussompo, Radio Okapi.
Les policiers qui vivaient sans abri au camp Jules Moké dans la commune de Bagira dans la ville de Bukavu ont trouvé du secours. Le secours est venu des religieuses de la congrégation des sœurs franciscaines. 19 maisons de 3 pièces chacune leur ont été officiellement remises par l'entremise du gouverneur de province. Ce dernier, à son tour, a remis les clés au commissaire provincial de la police. C'était hier jeudi. Ce geste de générosité des religieuses à l'égard des policiers ne s'arrête pas seulement à la dotation en maison résidentielle. Plus de détails avec vous, Jean Kassami.
Chacune comprend 3 pièces, dont 2 chambres à coucher et 1 salon. Le gouverneur de province ad intérim a réceptionné les clés qu'il a ensuite remises au commissaire provincial de la police. La sœur scolastique qui chapeaute les projets renseigne que ces maisons déjà achevées constituent une première partie du projet des 100 maisons que la congrégation des sœurs franciscaines se propose de construire dans le but de doter des abris de qualité aux familles des policiers. Ceci grâce aux moyens des donateurs occidentaux. Le gouverneur intérimaire avec le commissaire provincial de la PNC ont demandé aux bénéficiaires de ces maisons de les garder en beau père de famille. L'émotion de la sœur scolastique est montée d'un coup lorsqu'elle a abordé le sujet en rapport avec la menace d'expoliation par une tierce du site de la SNCC qui abrite l'une des écoles qui encadre les enfants des policiers démunis. Les autorités présentes sur les lieux ont promis de se pencher sur la question. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Près de 18 000 réfugiés rwandais vivant à RDC ont été rapatriés en 2017. Ceux qui ne le seront pas au 31 décembre garderont tout de même leur statut de réfugié malgré la clause de cessation de ces statuts dont l'échéance était fixée à la fin de cette année 2017. C'est le représentant régional assistant chargé de la protection au bureau du HCR RDC qui donne cette information. Olivier Baer explique le pourquoi au micro de Honoré Missinga Kalala.
La République démocratique du Congo, parce qu'elle a un contexte particulier, c'est elle qui a reçu le plus grand nombre de réfugiés. Il faut donc plus de temps pour trouver des solutions. Elle n'a pas encore invoqué la clause de cessation.
Cela veut dire que le statut de réfugié est encore applicable aux Rwandais qui sont sur le sol congolais.
Tout à fait. Après le 31 décembre 2017, soit au 1er janvier 2018, les réfugiés rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo sont toujours, aux yeux de la République démocratique du Congo, des réfugiés qui continueront à bénéficier de la protection de la République démocratique du Congo. Donc rien ne se passera pour eux. J'ai entendu dire par certains que le 1er janvier 2018, ils allaient perdre leur nationalité, ils allaient perdre leur statut.
Et en plus bref, l'administration américaine a publié hier jeudi un nouveau régime de sanctions visant les acteurs impliqués dans les abus des droits de l'homme et la corruption dans le monde. Ainsi, l'homme d'affaires Dan Gettler, bien connu dans les milieux d'affaires congolais, se retrouve sur la liste des personnes sanctionnées. L'OFAC, qui est l'Office of Foreign Asset Control, qui est l'organisme de contrôle financier dépendant du département du Trésor des États-Unis, écrit, je cite, « Gertler a utilisé son amitié avec le président de la RDC, Joseph Kabila, pour agir en tant qu'intermédiaire pour la vente d'actifs miniers en RDC. En conséquence, entre 2010 et 2012, la RDC aurait perdu plus de 1,36 milliard de dollars américains à cause de la sous-évaluation des actifs miniers qui ont été vendus à des sociétés offshore liées à Gertler. » Fin de citation.
Actualité Afrique Monde.
L'actualité internationale, le président français Emmanuel Macron se rend au Niger en fin de la journée ce vendredi 22 décembre. Au programme, une rencontre avec le président Mahamadou Issoufou et une visite des troupes de Barkhane. C'est la dernière destination étrangère de l'année pour le chef de l'État français. Emmanuel Macron passera 20 heures au Niger ce vendredi entre la base aérienne protégée de Niamey et le palais présidentiel. Les belligérants de la guerre civile qui frappent le Soudan du Sud ont réussi à se mettre d'accord jeudi. Les armes cesseront de parler à compter du dimanche 24 décembre à minuit une minute. Le texte de 18 pages signé à Addis Abeba sous l'égide de l'autorité intergouvernementale sur le développement, l'IGAD, comprend aussi la protection des civils et l'accès total des humanitaires aux zones de conflit. Depuis 4 ans, disons-le, la guerre a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 4 millions de déplacés internes et de réfugiés dans les pays voisins. Après 96 heures de négociations serrées, les représentants des partis politiques et mouvements armés étaient satisfaits. À New York, par 128 voix sur 193, l'Assemblée générale de l'ONU a condamné ce jeudi 21 la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël. La résolution a été adoptée sans surprise et même largement sur les 193 États membres de l'ONU. Seuls 9 pays ont voté contre, mais en y regardant de plus près, les États-Unis n'y verront pas une défaite car 35 pays se sont abstenus et 21 ne sont pas venus voter.